Repérez certains modes de fonctionnement de votre esprit. Toute discussion sur un sujet aussi vaste que celui de la conscience peut rapidement sombrer dans le vague et l'abstrait. Pour éviter cela, examinons ensemble d'abord deux manières dont votre esprit vous permet habituellement de prendre conscience de votre monde, la perception et la conception. La perception. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre esprit commence à regarder le monde par la fenêtre, celle de vos sens. Nous parlerons davantage de ces sens physiques dans la section « Les six formes de la conscience » plus loin dans ce chapitre. Mais pour le moment, prenez simplement votre vue, votre fonction visuelle. Imaginez que vous venez de passer la nuit dans une chambre d'hôtel que vous ne connaissez pas. En vous frottant les yeux et en regardant autour de vous le matin, vous ne voyez pas immédiatement les différents objets de la chambre. Par exemple, au lieu de voir le tableau accroché au mur, vous voyez simplement un arrangement de différentes formes et couleurs. C'est ce que vos yeux perçoivent directement, des formes et des couleurs. Puis, la conception entre en jeu. La conception. Un moment après que la perception a eu lieu, une fraction de seconde ou bien plus longtemps après, vous identifiez cet arrangement de formes et de couleurs comme étant un tableau. Dès que vous établissez le rapport, cela ouvre la voie à un tas d'idées additionnelles au sujet de ce tableau. Je l'aime bien, c'est le pire tableau que j'ai jamais vu, je pense que c'est un original, peut-être que c'est une reproduction, je me demande combien il coûte, il ferait bien dans ma chambre. Si vous aimez ce tableau au point de l'acheter, la prochaine fois que vous le voyez, vous penserez peut-être « c'est mon tableau ». Les conceptions « un bon tableau », un mauvais tableau, un tableau onéreux, mon tableau, etc., sont des interprétations que fait votre esprit. Comme le montre cet exemple simple, un processus en deux temps est à l'œuvre. Le premier temps est celui de la simple perception. Votre conscience visuelle perçoit simplement des données sensorielles brutes. Mais peu après, la partie de votre esprit qui conceptualise assaisonne la simple perception de tout un tas de notions, d'idées, de préférences et d'autres jugements dualistes. Les conceptions sont dites dualistes car il est impossible de qualifier certaines choses de bonnes sans en qualifier d'autres de mauvaises. Cette manière dualiste de considérer toute chose est l'endroit où naissent l'attachement et l'aversion. Or, selon le bouddhisme, l'attachement et l'aversion sont la cause de tous vos problèmes. Pour en savoir plus, lisez la section « La sagesse vous permet de lever le voile des idées fausses » plus loin dans ce chapitre. Toutefois, il y a un bref instant avant que l'esprit qui conceptualise intervienne. L'instant durant lequel votre esprit a un aperçu de l'objet lui-même, juste tel qu'il est, sans jugement, interprétation ou histoire associée à lui. En poursuivant l'exemple du tableau de la chambre d'hôtel, durant ce bref instant, vous voyez le tableau directement, sans dualisme. C'est la manière dont fonctionne l'esprit éveillé. Il n'est pas encombré de concepts tels que le bon ou le mauvais, le mien et le tien, etc. Voir le chapitre 10 pour en apprendre davantage sur la signification de l'éveil spirituel. La formation spirituelle est, pour une grande part, affaire de pratique et d'entraînement à voir les choses de cette manière directe et non conceptuelle. Comme le corps humain est doté de cinq sens, il existe cinq types de conscience provenant des sens, qui sont parfois appelés conscience sensorielle. Dans certains textes, on leur donne les noms plutôt techniques qui suivent, mais leur signification est assez simple. Alors, ne vous prenez pas la tête. La conscience auditive perçoit les sons. La conscience gustative perçoit les goûts, comme amer, sucré et acide. La conscience olfactive perçoit les odeurs. La conscience tactile perçoit les sensations corporelles, comme le chaud et le froid, le rugueux et le lisse, etc. La conscience visuelle perçoit les couleurs et les formes. Ces cinq types de sensations ou consciences sensorielles dépendent évidemment de la santé de votre corps et de vos organes sensoriels. Il existe aussi un sixième type de conscience dont le fonctionnement ne dépend pourtant pas si directement de vos sens physiques. La conscience mentale peut être consciente de tous les éléments précédemment cités, c'est-à-dire des vues, des sons, des odeurs, des goûts et sensations, et de bien plus encore. Lorsque les gens parlent de leur esprit, ils parlent en général de la sixième conscience. c'est-à-dire de la conscience mentale, encore appelée organe mental, notamment dans l'ouvrage de référence du révérend Walpola Raoula, L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens, édition du Seuil, collection Point Sagesse. Par exemple, si vous pensez à votre mère, même si elle vit à des centaines de kilomètres de distance, ou même si elle est décédée, vous direz « j'ai récemment pensé à ma mère ». Et si vous pensez à elle avec une intensité telle que son image vous apparaît, vous la voyez non pas avec votre conscience visuelle, mais avec votre organe mental, ou, comme on le dit couramment, en imagination. La sixième forme de conscience fonctionne de manière nombreuse et diverse, et elle affecte absolument tout ce qui vous concerne, y compris les cinq formes de conscience sensorielle. Par exemple, l'attention, c'est-à-dire la faculté à diriger l'esprit vers une direction particulière, ne représente que l'une des nombreuses qualités différentes qui sont associées à l'organe mental. Lorsque vous êtes éveillé, c'est-à-dire lorsque vous ne dormez pas, les cinq formes de conscience sensorielle reçoivent des informations de votre environnement sous la forme de données sensorielles brutes. Mais la quantité d'attention que votre esprit accorde à chaque élément d'information dans ce flux constant de données peut beaucoup varier. En écoutant ce livre, par exemple, vous accordez de l'attention aux mots que je prononce avec votre conscience auditive. Mais dans quelle mesure êtes-vous conscient des sensations tactiles, du toucher, qui sont produites par le fauteuil ou le divan, le banc, etc., avec lequel vos fesses sont en contact? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. Jusqu'au moment où nous avons attiré votre attention sur ce fait, c'est-à-dire juste maintenant, vous n'en étiez probablement pas conscient. Bien sûr, la situation serait différente si vous vous étiez soudainement assis sur une écharde. Personne n'a besoin d'attirer votre attention sur ce type de sensation pour que vous en ayez pleinement conscience.
Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Il va sans dire que les cinq types de facultés sensorielles dépendent de l'état des organes qui y sont associés. Lorsque vous êtes enrhumé, par exemple, il est possible que vous ne sentiez plus rien. La perception olfactive continue de bien fonctionner, mais la congestion nasale bloque la capacité de votre nez à sentir. De même, comme chaque cuisinier à qui il est arrivé d'ajouter trop de sel dans une soupe, la langue peut s'accoutumer à certains goûts. Un exemple de plus. Appuyez votre doigt contre le côté de votre orbite à un certain endroit, puis regardez le ciel nocturne, et vous verrez peut-être deux lunes au lieu d'une seule. Ces quelques exemples suffisent à démontrer que l'on ne peut pas toujours se fier à la manière dont les choses apparaissent à l'esprit. Si vous ajoutez à tout ce mélange les distorsions variées qui sont créées par vos idées préconçues et vos attentes, vous voyez bien que des perceptions claires et sans déformation ne sont pas aussi courantes que vous l'avez peut-être imaginé.
Cette brève démonstration ne sert qu'à vous montrer que la qualité de votre conscience sensorielle varie grandement en fonction de nombreux facteurs. Dans certains cas, comme lorsque vous observez des illusions d'optique, vous pouvez complètement vous tromper sur ce que vous percevez. Les impressions sensorielles ne sont pas fiables, c'est bien connu. Mais dans certaines circonstances très spécifiques, on peut faire l'expérience d'un niveau de conscience sensorielle véritablement étonnant. Quand cela leur arrive, certains athlètes professionnels disent par exemple que toute action, aussi déchaînée soit-elle, semble se ralentir dans le mental, et le temps lui-même aussi. Ces athlètes affirment qu'ils peuvent alors tout voir très clairement, comme si l'action se déroulait au ralenti. Le champ de vision tout entier s'élargit considérablement, et tous les autres joueurs sont perçus de façon très nette. C'est dans de tels instants que des miracles peuvent se produire. De tels changements spectaculaires résultent d'une augmentation de la concentration, qui constitue un autre aspect et une autre fonction de votre conscience mentale. La concentration est l'aptitude de l'esprit à rester sans vaciller sur un objet, quel qu'il soit, sur lequel on dirige son attention. Comme les autres facultés mentales, la concentration peut être développée. Pour des conseils à ce sujet, portez toute votre attention au chapitre 7. La plupart du temps, votre concentration est plutôt dispersée. Elle est douce et diffuse comme la lumière d'une ampoule électrique ordinaire. mais lorsque votre concentration est focalisée, elle ressemble à la lumière pénétrante d'un rayon laser. Certains maîtres de méditation sont parvenus à un état mental particulier, le samadhi, dans lequel leur esprit est en mesure d'obtenir une vision particulièrement profonde de la réalité. On raconte que lorsqu'Einstein était occupé avec un problème théorique particulier, il glissait dans un état de conscience semblable à celui du samadhi pendant de longs moments. Lorsqu'il s'y trouvait, il était sans mouvement, inconscient de tout ce qui se passait autour de lui. Jusqu'à présent, dans cette introduction au fonctionnement de l'esprit, nous avons abordé certaines activités mentales, comme le questionnement, la concentration et la conceptualisation. Mais ces activités ne sont certainement pas les seules fonctions de l'esprit. La conscience mentale comprend aussi vos attitudes et vos états émotionnels, que celles-ci et ceux-ci soient positifs ou négatifs. Lorsque les bouddhistes parlent de développement mental, cela ne signifie pas pour eux devenir plus intelligent. Le développement mental concerne le relâchement de l'emprise que les états négatifs ont sur l'esprit, et il s'agit de renforcer les qualités positives de l'esprit. Nous mettons ces mots entre guillemets parce que négatif et positif ne sont ici que relatifs. Ne comprenez pas ici qu'une partie de votre esprit est intrinsèquement bonne et que l'autre est foncièrement mauvaise. Pour les bouddhistes, faire appel à son intelligence émotionnelle, c'est une activité importante qui contribue au développement mental et spirituel.
L'esprit, la tête et le cœur. En Occident, la tendance est de penser que différents aspects de la conscience mentale résident en un ou deux endroits, la tête ou le cœur. Des fonctions comme savoir, penser, raisonner, se souvenir et analyser, en d'autres termes, des fonctions que la plupart des gens considèrent comme mentales dans leur nature, sont assignées à la tête. Si quelqu'un possède un type d'intelligence très abstrait, par exemple, on dira « c'est un cerveau » ou « c'est une grosse tête ». Lorsqu'on essaie de résoudre un problème difficile ou de se rappeler quelque chose que l'on a oublié, on se gratte souvent la tête. Comme si ce geste pouvait en quelque sorte faire démarrer le processus de réflexion. D'autre part, on pense quasiment toujours que le centre émotionnel de l'être se trouve dans le cœur. Lorsque de fortes émotions les saisissent, beaucoup de gens se frappent la poitrine ou mettent la main sur le cœur. On considère communément que l'amour, la bravoure et tout un tas d'autres sentiments ont ici leur centre. En fait, le cœur est devenu le symbole des sentiments amoureux. Pensez à tous les cœurs des cartes de la Saint-Valentin. Et le mot « courage » vient lui-même du mot « cœur ». Il est intéressant de noter que des organes différents du cœur ont été, au cours de l'histoire, considérés comme les centres respectifs de différentes émotions. Du temps de Shakespeare, par exemple, on pensait que le foie était le siège de la passion. Cette pensée survit encore de nos jours lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a les foies, c'est-à-dire qu'il a peur. D'autres expressions comme « se faire de la bile », du souci, indiquent encore aujourd'hui que par le passé, des émotions spécifiques furent associées à un autre organe interne que le cœur. Notez que cette distinction nette entre la nature émotionnelle du cœur et les qualités plus intellectuelles associées au cerveau et à la tête n'existe pas dans le bouddhisme. Le mot sanskrit « citta » dont nous parlons au chapitre 14, se traduit par « esprit »,« cœur », »,« attitude » ou « conscience » en fonction du contexte. De même, le mot japonais « shin » peut aussi bien se traduire par « esprit » ou par « cœur ».